Ces derniers mois, suite à l'affaire Weinstein, le féminisme a fait l'objet d'un nombre incalculable d'éditoriaux et de polémistes en tout genre. Ce qui demeure néanmoins le plus intéressant, c'est le regard de féministes sur le féminisme, son actualité et son avenir. Que restera-t-il de MeToo ? Y aura-t-il un avant et un après ? Assistons-nous à l'avènement d'une nouvelle vague féministe avec ses nouvelles figures, ses nouvelles organisations ? Le vendredi 24 août 2018, dans le cadre du Verpop à la Cité Miroir à Liège, Etopia organisait le débat « Féminisme, une nouvelle vague, de nouveaux combats ». Avec comme intervenantes trois femmes. Rokhaya Diallo, écrivaine, réalisatrice, journaliste et militante féministe française. Nathalie Grandjean, chercheuse à l'Université de Namur, doctorante en philosophie et administratrice de SOFIA, le réseau belge des études de genre. Isaakia Katabi, coprésidente d'Écolo. Le débat était animé par la journaliste Florence Hainaut. Retrouvez la seconde partie de ce programme. Vous êtes à la Cité Miroir, à Liège.
Ce que tu soulignes là, c'est vraiment cette idée que les rapports sociaux de sexe ou les rapports de genre sont avant tout systémiques. Hein. Donc il y a certaines féministes qui vont dire, ben voilà, finalement les hommes peuvent gagner, peuvent aussi gagner dans le féminisme. Alors en général, les hommes n'ont pas forcément envie de perdre des privilèges, donc ils se disent qu'ils ne vont pas gagner. Mais certains hommes, ils voient des avantages, en fait, de sortir justement de cette espèce de carcan, de ce que c'est quoi la virilité, être viril c'est ça, être un homme c'est ça, etc. C'est quand même aussi, c'est aussi des assignations qui contraignent les hommes dans des rôles dans lesquels tout le monde, a, enfin tous ces hommes n'ont pas forcément envie d'être une espèce de guerrier à moitié préhistorique, sous prétexte qu'il faudrait performer la virilité comme ça sur un mode de la compétition, de l'agressivité dite naturelle, oui naturelle parce que c'est mes hormones qui conduisent. Donc voilà, peut-être même, on pourrait même espérer que la plupart des hommes n'aient pas envie de ça. Donc il faudrait aussi que les hommes fassent une espèce de révolution par rapport aux assignations qui les contraignent. Mais ça, en même temps, c'est quelque chose qui leur appartient. Et qui leur appartient, oui, qui leur appartient, mais dont il leur appartient aussi de pouvoir, comment dire, être humble face aux autres dominations, etc. Donc de s'inscrire finalement dans cette non solidarité, sans forcément se dire qu'ils sont des victimes. Voilà, ils sont pris dans un système, ok, sur lequel ils n'ont pas, ils ne sont pas responsables, mais dans lequel ils ont une part de responsabilité. Donc, mais ça, c'est pas quelque chose dans lequel nous, les féministes, on doit leur dire, faites ci ou faites ça, évidemment. Mais entre-temps, le combat des féministes a fait qu'eux doivent, en tout cas, les lignes ont bougé, certainement. Et donc, c'est sans doute comme ça aussi qu'il y a tout ce black-clash, cette agressivité, comme ça. C'est qu'effectivement, quand j'entends ces masculinistes, il y a tout un discours sur l'identité. Ah, nous, les hommes, en fait, on est, donc, on en revient à une espèce de mythologie, les chasseurs-cueilleurs, etc. Nous sommes les chasseurs, les femmes sont des cueilleuses. On se dit, mon Dieu. Mon Dieu. Et donc les hommes, ils ont toujours été ceux qui étaient ceux qui tirent, etc., ceux qui sont à l'initiative. Et alors, l'acte sexuel, c'est la pénétration. Donc nous sommes dans notre nature, ceux qui doivent, etc. Et les hommes et les femmes, elles reçoivent. On se dit, mais enfin, c'est pathétique. Et en même temps, si on se dit, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? On se dit que c'est un problème d'identité. Mais donc, alors, on se dit, mais voilà, faites quelque chose, travaillez votre identité plutôt que vous me posez en victime de quelque chose. Bon, voilà,
et puis c'est une manière aussi de se placer au centre. Quoi,
tout
parce
à fait.
Que moi, je trouve
tout
ça
à
fou
fait.
Qu'un homme qui assiste à des études
c'est
de genre,
pathétique,
qui parle de la domination des femmes, parle de lui en disant « pauvre de moi, je me sens attaquée », alors qu'il n'est pas du tout question de lui individuellement.
Exactement.
Et c'est vraiment de se dire « voilà, mais en fait, ce n'est pas parce qu'on a une identité dominante et majoritaire qu'on doit toujours être au centre de toutes
exactement
les conversations. »
Exactement.
Et après, par rapport à ce que tu disais, Zaka, je crois aussi que dans la manière dont on est élevé en tant que femme, on est élevé dans une forme de servilité, de docilité permanente. Et c'est vraiment un travail que de sortir de cette posture, parce qu'en fait, on nous élève dans l'idée qu'on doit plaire aux hommes. On doit être souriante, on doit être gentille, on ne doit pas les contrarier, on doit être poli, etc. Enfin, je pense que ça vous est tout arrivé dans la rue, vous ne souriez pas, quelqu'un vous arrête en disant pourquoi vous ne souriez pas, madame ? Vous seriez plus belle si vous souriez, mais pourquoi je vais vous sourire, je ne vous connais même pas. Et il y a vraiment ce truc-là, mais pourquoi on est obligé de sourire pour, encore une fois, sourire sans raison, mais parce que ça fait plaisir à une personne qui ne nous connaît pas, qui estime que notre visage lui serait plus agréable s'il était souriant. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement intégré, c'est-à-dire que même quand on s'exprime, on essaie de le faire poliment, en n'étant pas trop ferme, parce que sinon on va passer pour étant trop agressive, etc. Et c'est vrai que dès qu'on sort de ça, en étant des femmes affirmatives, simplement qui croient dans ce qu'elles disent, eh bien, on est perçu comme... Bon, déjà, clairement, on bouleverse un ordonnancement, quoi, l'ordre des choses, et en fait, les hommes beaucoup d'hommes se sentent attaqués. Et c'est-à-dire qu'à agressivité égale, enfin, moi, il y a toujours quelque chose auquel je pense, une personne à laquelle je pense, qui je trouve que enfin, c'est intéressant d'imaginer si certaines personnalités étaient des femmes, comment elles seraient reçues. Je voyais tous qui est Jean-Luc Mélenchon. Imaginez si Jean-Luc Mélenchon était une femme. Tout le monde dirait que cette femme est complètement folle. Non, mais je veux dire, tout le monde dirait qu'elle est... Tout le monde dirait qu'elle est complètement dérangée, qu'elle est agressive, qu'est-ce qui lui prend, mais elle n'a aucune maîtrise de ses nerfs, est-ce qu'elle a ses règles ? Enfin, je pense que tout le monde se demanderait si elle a un dérangement d'ordre hormonal. Et on voit bien que la marge de manœuvre en termes de colère, en termes d'expression très virulente, très vive, etc., pour les hommes, est extraordinaire. Quand pour une femme, la moindre expression d'émotion, on passe pour une personne qui n'a pas de maîtrise d'elle-même, pour une personne trop émotive ou trop colérique ou trop brutale ou trop sérieuse. Et c'est vrai que bah voilà, dès qu'on est une femme et qu'on s'exprime sur un terrain qui est censé être le terrain masculin, sans le faire avec les codes dits de la féminité, forcément on dérange et on est attaqué parce que c'est une manière de nous rappeler à l'ordre et de nous rappeler à notre condition.
On parlait des femmes qu'on éloigne des moyens d'expression que sont en tout cas les réseaux sociaux. Est-ce que, Nathalie, les femmes sont là où on fabrique le savoir ?
Et est-ce qu'un savoir ? Ça dépend quel savoir. Oui.
Est-ce qu'un savoir fabriqué par des hommes est neutre ? La réponse est non, hein, mais je tue.
Si je dois parler à partir de ma propre expérience, c'est toujours plus facile parce que faire des grandes généralités. Bon, d'abord, les femmes n'ont pas quand même toujours eu accès à l'université, donc elles ne sont pas non plus là depuis toujours dans la fabrication des savoirs, bien loin de là. Si je parle de ma propre situation donc en tant que philosophe, il y a finalement peu de... Si vous avez eu l'occasion d'avoir un cours d'histoire de la philosophie, vous avez certainement eu Aristote, Platon, vous avez tous des hommes, et vous avez probablement eu pas beaucoup de femmes, peut-être sans doute un peu Hannah Arendt, mais en vite. Et voilà, voilà, en gros. Et donc les femmes philosophes, par exemple, elles sont complètement inexistantes, et alors c'est là où on se dit, mais qui fabrique la métaphysique du monde ? Qui pense l'ordonnancement du monde ? Ce sont les hommes. Alors, autre exemple qui n'a rien à voir avec la philosophie. Moi, je fais la philosophie, mais je travaille dans un département d'informatique. Là, vous savez qu'en informatique, il y a aussi pratiquement que des hommes. Alors là, c'est un parallèle ou un miroir un peu étrange, parce qu'à la fois, philosophe, donc il y a peu de femmes qui finalement sont autorisées à penser le monde, et les informatiques, il y a très peu d'informaticiennes, et l'informatique est ce qui, pour le moment, on va dire qu'ils fabriquent le monde, mais en tout cas, qui contribuent à fabriquer les nouveaux outils dans lesquels nous sommes pour... interagir, bon, on a parlé des réseaux sociaux, là aussi ce sont les hommes qui sont... Voilà, donc effectivement les femmes peinent à arriver dans certaines disciplines, en tout cas à l'université. On voit que dans la structure même de l'université, il n'y a pas de femmes rectrices en Belgique francophone. Il y a maintenant des vice-rectrices, mais il n'y a toujours pas de femmes rectrices. Jusqu'à pas très longtemps, il n'y avait que 11% de professeurs ordinaires qui sont évidemment le stade un peu ultime de la carrière. Donc les femmes manquent. Hein, et donc elles manquent pas simplement pour des questions un peu d'égalité, on va dire arithmétique, mais elles manquent pour penser le monde ensemble. Hein, où sont les femmes quand il s'agit de penser la métaphysique, quand il s'agit de penser l'éthique, par exemple. Hein, l'éthique, c'est quelque chose maintenant, c'est une demande très forte de la société par rapport justement aux universitaires ou aux philosophes. Donnez-nous de l'éthique du numérique, l'éthique de ceci. Et souvent, ce sont des hommes qu'on interroge, spécialement sur l'éthique du numérique, hein, où on combine la question de la pensée et la question de l'informatique. Pourtant, il y a plein de femmes, évidemment, philosophes ou éthiciennes qui pensent... Donc voilà, donc là, je me dis, c'est pas encore gagné. Donc bon, là, c'est un peu le combat, parce que moi, je suis pas, comme vous, sur les réseaux sociaux, une féministe comme ça, je suis plutôt une féministe...
N'y va pas.
Ancrée, oui, je sais pas si j'ai envie d'y aller, d'ailleurs. Plutôt ancrée dans certaines choses. Mais voilà, j'essaye de faire la militance là où je suis. Mais donc effectivement, voilà, il nous manque ceci, et nous sommes le travail est à faire en termes de construction d'un monde commun à partir aussi d'autres yeux.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, enfin moi, il y a la question de la présence des femmes, effectivement, etc. Mais pour moi, ça ne garantit pas que la production du savoir intègre la dimension du genre. Je pense que non seulement il faut des femmes, mais ça c'est purement pour être avec été, mais il faut des féministes, parce qu'on le sait, tu disais tout à l'heure, on a tous été élevés à être jolies, à être jolies, gentilles, ce sont des femmes qui nous ont élevées. Je veux dire, la transmission du savoir à l'université, le fait que ce soit une femme, et il en faut, donc je ne suis pas en train de dire, n'est pas une garantie pour qu'on ne reste pas dans un modèle hétéronormé, etc. Je veux dire, la transmission aujourd'hui culturelle, civilisationnelle presque, elle continue à se faire par les femmes. Et s'il suffisait d'être femme pour vouloir inverser la tendance, ça saurait. Or, c'est l'inverse qui se... Enfin, alors, tu évoquais l'exemple de femmes présentes à l'université qui revendiquent le droit de se faire tripoter dans le métro. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça la réalité. Mais donc, c'est deux combats différents. Ce que je voulais dire, c'était, voilà, il y a un combat à mener pour qu'en effet, les femmes soient présentes, et il est encore loin d'être gagné. Mais pour moi, ce n'est pas une garantie pour qu'en effet le modèle ne continue pas à être reproduit et transmis.
C'est pour ça que je me réjouis, bon là c'est un peu coup de pub, mais je me réjouis qu'il y ait ce master en études de genre, parce qu'effectivement là, donc nous avons...
Lali est prof quand même.
Voilà. Désolée. Hein. Mais, parce que là, justement, il y a quand même une transmission des savoirs féministes. C'est pas simplement l'idée que les femmes doivent être là où elles n'étaient pas avant. Il y a une transmission des savoirs féministes, de l'histoire féministe, et aussi le fait que, voilà, on se dise, il n'y a pas que les hommes qui ont produit des savoirs, il y a aussi des femmes, il y a aussi des féministes qui ont produit des savoirs, et elles ont fait au savoir autre chose que la simple reproduction. Hein, ou la simple transmission. Elles ont fait quelque chose au savoir que les générations précédentes n'avaient pas fait. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais on ne sait pas gagner à l'université. Hein, c'est peut-être... Le Mais combat est aussi compliqué qu'à mon avis sur les réseaux sociaux.
Je me pose une question que je ne me serais jamais posée si je n'avais pas fait ce master en genre. Est-ce qu'être féministe, c'est nécessairement être de gauche? Ou plutôt, est-ce qu'on peut être féministe et ne pas voir dans le capitalisme un système de domination qui est complètement inique?
Ça me paraît évident que oui, on peut. Enfin, alors en même temps, je dis ça et je pense à quelqu'un évidemment, et ça me contredit tout de suite. Je pense à Madame Badinter.
Oui.
Voilà. Donc je veux dire, je l'ai jamais entendue en mettre en question. Donc et pourtant, elle se revendique du féminisme, et pourtant, elle se situe parfois dans des positions excluantes pour les femmes. Et donc tu l'évoquais tout à l'heure. Moi, je ne comprends pas comment des femmes demande l'exclusion dans le lieu de travail d'une autre femme, alors qu'on sait par exemple que l'émancipation elle passe par le travail, etc. Et donc à ta question, est-ce qu'il faut être de gauche il y a des féministes qui sont de droite, c'est à dire que je réfléchis, je voudrais dire que oui, bah, pour être féministe, mais en même temps ça va en contradiction avec le début de la discussion qui était de dire il n'y a pas qu'un féminisme.
Est-ce qu'il suffit de dire qu'on est féministe pour être féministe? C'est un énoncé performatif?
Moi, je pense qu'on n'est pas en droit de dire d'une femme qui se dit féministe qu'elle ne l'est pas. Je trouve que c'est la négation de sa capacité à se produire comme un sujet politique.
Comme une productrice de savoir.
Ouais, c'est ça. Aussi. Donc, je pense que c'est toujours de voir d'une femme qui se dit féministe, de dire non, elle n'est pas féministe. C'est une manière d'exprimer une forme de mépris, voilà. Et c'est toujours des mêmes femmes, généralement, dont on doute du féminisme. Donc, et a fortiori, quand ce sont des hommes qui vous expliquent que vous n'êtes pas féministe, alors là, on n'écoute même pas, quoi. C'est-à-dire que, bon, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai que moi, je ne peux pas entendre qu'on me dise que telle femme n'est pas féministe parce qu'elle n'est pas habillée comme il faut, parce qu'elle est, voilà, est trop peu habillée ou pas assez habillée. Non, pour moi, c'est dérangeant. Après, on peut discuter ensemble des modalités, réfléchir stratégiquement, se dire, est-ce que voilà, t'es sûr que tu penses que cette telle ou telle manière d'agir est la bonne, est-ce que c'est la bonne priorité, etc. On peut discuter entre nous, mais de là, invalider une femme, invalider le féminisme d'une femme par rapport à une grille de lecture, c'est déjà orienté.
Alors, je vous rappelle qu'on est au Vert Pop, donc j'ai une question à poser. Qui est calé en écoféminisme? Nathalie,
oui, voilà. Un peu, oui, voilà. J'ai lu des choses sur l'écoféminisme et les écoféministes. Alors l'écoféminisme, bon, ça, je vais un peu pérorer, hein, comme faire mon rôle de chercheuse comme ça. L'écoféminisme, c'est Françoise Daubonne, hein, qui invente le terme, en tout cas, qui fait naître cette idée d'écoféminisme avec cette idée qu'en fait. Le rapport de l'homme à la femme est aussi le rapport que la nature subit, si vous voulez. La nature, elle subirait une domination qui serait un peu, pas forcément similaire à celle que la femme subit, mais en tout cas une domination tout aussi importante. Et donc il faudrait, on parlait de solidarité, de divergence, mais il faudrait aussi être solidaire avec la domination que subit la nature, hein, donc c'est le fait que la nature soit abîmée, maltraitée, etc. Et finalement, prendre conscience que la nature est aussi dans une position comme ça de dominer et qu'elle devrait aussi s'en émanciper. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée de base de l'écoféminisme. Alors, ce qui est intéressant avec l'écoféminisme, à mon avis, c'est qu'on essaye d'articuler aussi un rapport au monde, sans doute démilitarisé. Moi, c'est un peu comme ça que c'est ça qui me semble intéressant dans l'écoféminisme, hein, c'est qu'on essaye de démilitariser la pensée. Donc, justement, d'arrêter de faire subir à la nature. Entre la nature avec des grands guillemets, parce qu'on sait très bien que la nature, c'est quelque chose qui n'est pas forcément. Que tout le monde ne visualise pas de la même manière, et de telle manière, enfin de manière similaire aux violences exercées envers les femmes, si vous voulez. Voilà, alors un des grands enjeux, enjeu un peu théorique, mais aussi militant par rapport à l'écoféminisme, c'est toute la critique que les écoféminismes reçoivent sur l'idée qu'elles seraient des essentialistes. Hein. Donc cette idée que parce qu'elles elles défendent la nature, elles reviendraient à une nature de femme. Hein, et donc ça, c'est quelque chose dont effectivement que les écoféministes reçoivent à peu près à chaque fois comme la critique de Badinter, c'est sur le registre de l'insulte. Les écoféministes sont des sales essentialistes, hein, donc parce qu'elles finalement elles revendiqueraient elle rejouerait la nature-culture et elle rejouerait finalement l'idée que les femmes seraient plus proches de la nature que de la culture, etc. Alors moi j'ai l'impression que c'est évidemment une lecture très grossière d'abord, ou pas du tout de lecture en fait de toutes ces écoféministes, qu'en fait on ne les a pas lues, ça c'est la première chose, qu'aussi on rejoue facilement le registre aussi de l'insulte, les hystériques, donc elles sont aussi, parce que j'ai l'impression que dans l'écoféminisme il y a toute une série de choses très intéressantes, notamment sur un rapport à la terre et un rapport à la féminité qui n'est pas une féminité naturalisée, mais une féminité qui se réinvente, hein, et qui se réinvente dans des termes très particuliers qui sont en lien avec la nature. Et en cela, ça me semble vraiment très intéressant. Peut-être sans doute pas forcément toujours très connecté avec les autres débats féministes. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être plus à part, comme ça elles vivent. Peut-être se rejoue aussi un clivage ruralité-urbanité, peut-être dont on ne prend pas forcément la mesure comme ça dans les débats féministes, mais en tout cas, ça me semble intéressant. Et il faut sortir de cette idée que les écoféministes sont toutes des méchantes essentialistes. Voilà.
Est-ce que le mouvement a pris chez nous ou pas ?
J'imagine, je ne suis pas. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est sans doute pas un mouvement qui est similaire au mouvement, militant, qui serait dans une revendication, sans doute aussi, qui occupe les réseaux sociaux, qui occupe la rue, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément l'enjeu, justement, militant des écoféministes. Peut-être que leur enjeu se situe ailleurs, quoi. Dans la fabrication de nouveaux rituels par rapport à la terre, dans un autre rapport à la nature, dans un autre rapport à la pensée aussi. Et donc peut-être qu'elles ne sont pas dans les mêmes lieux, tant médiatiques que forcément elles ne sont peut-être aussi pas forcément dans les villes, là où se jouent aussi la plupart des débats féministes. Hein. Peut-être que dans la ruralité, il y a des féminismes qui n'ont pas forcément envie de s'exposer, mais qui ne sont pas pour autant cachés ou qui ne veulent pas forcément. Enfin, je veux dire, voilà, elles ne se jouent pas peut-être sur les mêmes terrains. Voilà, je pense.
Sur cette question-là, je pense aussi à tout ce qui. Toutes les injonctions que subissent les femmes qui les encouragent à la surconsommation. Je pense que tout ça, c'est vraiment une problématique extrêmement importante, notamment, je pense aux vêtements et toutes les conséquences sociales que ça a. On pense à l'éboulement du Rana Plaza au Bangladesh il y a 3 ans. Ce sont des femmes, en fait, qui sont mortes principalement. Ouais. Donc, à quel prix se fait aussi notre émancipation de femmes occidentales quand finalement, on a des injonctions qui nous conduisent à nous vêtir, à surconsommer des vêtements, à changer tout le temps, etc. Et ça se fait au prix, en fait, de vie, en l'occurrence. Pour ce cas-là, c'était vraiment au prix de vie. Et puis, en tout cas, en alimentant des conditions de travail pour d'autres femmes qui sont intolérables. Donc, comment on participe à ça ? Puis après, à un niveau plus immédiat, l'émancipation des femmes européennes, c'est fait. C'est-à-dire que quand on voit le temps qu'elles ont, le fait qu'elles aient pu travailler davantage, n'a pas réduit le temps de travail domestique des hommes, mais ça les a conduits à solliciter l'aide d'autres femmes. Et souvent, ce sont des femmes qui sont plus fragiles économiquement, qui parfois n'ont pas de papier, parfois sont exploitées. Donc il y a une espèce de. Voilà, des femmes qui vont être féministes, qui vont aller manifester, et puis pendant qu'elles vont manifester, en fait, c'est une femme étrangère qui va garder leurs enfants. Sans que l'homme, en fait, s'il y a un homme dans le foyer, ne soit davantage responsabilisé par rapport à ce partage du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Et puis après, il y a vraiment tous les produits, en fait, qu'on consomme au-delà des vêtements, les produits cosmétiques. des produits qui sont très problématiques, je pense aux tampons, par exemple, qui sont, au-delà du fait qu'ils sont polluants, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on soupçonne le fait que ça puisse générer des cas d'endométriose. Donc voilà, toutes ces questions-là qui se posent dans les produits qu'on propose aux femmes pour, soi-disant, faciliter leur confort, les rendre plus présentables esthétiquement, mais qui, en réalité, participent à la fois à la pollution et participent aussi à la production capitaliste, parce qu'on va créer des besoins qui sont complètement inutiles, c'est-à-dire qu'on nous fait acheter des trucs, on subdivise tous nos besoins en beauté pour nous faire acheter de plus en plus de produits très spécifiques, très précis, qui vont maquiller telle partie du visage, qui vont servir à rendre le cheveu d'une certaine manière. Et tout ça, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir sur être une femme. C'est, enfin, dans la société d'aujourd'hui, ça veut dire fabriquer sa féminité à l'aide de produits qui sont toxiques, qui sont polluants et qui participent à l'oppression d'autres femmes. Et ça, pour moi, c'est vraiment un questionnement à la fois du capitalisme, mais aussi des industries qui sont des industries polluantes et des industries oppressantes, parce que souvent, en tout cas, elles se permettent de ne pas respecter les droits humains, et souvent, ce sont des droits de femmes ou des droits d'enfants qui ne sont pas respectés.
Je sais pas quoi dire, c'était bien. J'allais dire, on entend souvent, mais moi, j'ai souvent entendu, j'ai souvent lu. Est-ce que vraiment, mesdames, c'est une priorité de se battre contre les compliments en rue ? Est-ce que l'égalité salariale, ce n'est pas le premier des combats ? Est-ce qu'on peut mener plusieurs combats de front ? Est-ce qu'il faut hiérarchiser les combats ? Comment on fait ?
Moi, je pense qu'on peut tout faire, quoi.
Enfin, mais toi, tu fais tout. Ça, c'est encore différent.
Non, mais je pense que de toute façon, on agit de concert. Chacune, en l'occurrence, agit à l'endroit où elle se trouve. Et je pense qu'en fait, toutes les formes... C'est-à-dire que tous les combats qu'on peut mener, du détail à des choses qui sont plus globales, qui apparaissent comme étant plus urgentes, ce sont les expressions d'un même phénomène. C'est-à-dire que le sexisme va opérer d'une manière très brutale dans les violences, d'une manière aussi plus évidente dans les inégalités salariales, dans les absences de progression, de carrière des femmes, mais aussi dans des détails. C'est-à-dire que, par exemple, si on va chez le coiffeur et qu'on se fait une coupe garçonne, ça coûte deux fois plus cher qu'un mec qui se fait exactement la même coupe. Pour quelle raison ? Enfin, voilà, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on nous vend la même chose, mais ça coûte plus cher. Par exemple, quand on vend des rasoirs pour s'épiler à des femmes, ça coûte plus cher que les rasoirs d'hommes, alors que c'est exactement le même produit, sauf que celui des femmes est rose. C'est-à-dire que, voilà, ou des vêtements identiques qui sont plus chers quand il s'agit de vêtements féminins, parce qu'on nous a conditionnés à investir davantage d'argent dans tout ce qui correspond à notre représentation. Donc ça paraît être un détail, mais en réalité, tout ça, ce sont des phénomènes qui appartiennent à une même logique. Et je pense que, quand des gens protestaient contre la taxe tampon en France, tout le monde s'est moqué des femmes parce qu'on leur disait, voilà, que c'est scandaleux. Mais voilà, c'est 5 euros et c'est de l'argent. Enfin, voilà, c'est une somme qui peut représenter quelque chose pour des gens qui gagnent peu d'argent, et on n'a pas à payer plus le fait d'être une femme. Donc je crois, c'est comme dans la question du racisme, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est vrai que moi j'ai travaillé autant sur les cheveux crépus que sur les violences policières, et il n'y a pas d'antinomie. Pour moi, c'est un phénomène qui est un phénomène global et structurel, et qui a des expressions diverses, et je pense que c'est important de pouvoir toucher tous les publics qui sont visés par le racisme, en créant aussi des alliances, parce que évidemment, individuellement, on ne peut pas tout faire, mais en créant des alliances ponctuelles ou plus durables avec des gens qui agissent à plusieurs niveaux, et on n'a pas toutes les compétences toutes les façons. Donc aujourd'hui, être ici, parler d'écoféminisme, c'est important, et c'est important aussi d'allier des personnes qui sont compétentes, qui vont pouvoir détailler la manière dont on peut agir sur le féminisme avec cette problématique-là, qui est la problématique de l'anticapitalisme, mais aussi de l'écologie durable.
Sakia, comment on fait pour porter des combats ou des idées féministes dans un monde politique qui est pas toujours prêt ? Pour le dire gentiment.
Ah oui. Alors, ce n'est pas seulement le monde politique, je pense que c'est le monde médiatique aussi. Nous, on a... je pense à une initiative...
Dans le monde, qui n'est pas toujours prêt.
Une initiative qu'on a prise à l'occasion de mars 2018, donc vous savez, hein, chaque année, à l'occasion du 8 mars, les partis organisent des actions autour de cet enjeu-là, et nous avions décidé de nous challenger nous-mêmes, mais aussi les médias, en disant, écoutez, pendant un mois... Bon, alors, vous connaissez, hein, c'était les débats du dimanche, à l'époque, Florence. Et donc, à chaque nouveau débat, à chaque nouveau panel, la même discussion sur la non-parité ou la non-représentation de femmes, enfin, voilà, dans les débats. Et donc, la réponse... soit que les partis donnent, c'est de dire bon, on n'a pas de femmes expertes dans ce domaine, soit que les médias donnent, c'est on n'a pas trouvé d'expertise, voilà, et donc on n'a que des hommes sur le plateau. Et donc on s'est dit, voilà, nous, nous donnons comme consigne pendant un mois de ne faire apparaître que des femmes expertes ou des femmes parlementaires, des femmes, voilà. Et bon, ça n'a pas été simple, mais une des premières sollicitations médiatiques autour de cet enjeu-là, c'était une femme, une journaliste politique bien connue qui m'interpelle. Alors, vous me passerez l'expression, qui me dit « Ah, mais tiens, ça a commencé votre mois sans couilles ».
C'est Joanne.
Il est dans la salle, désolée de voilà de. Hein, mais et puis la deuxième sollicitation, c'était tiens, est-ce qu'on peut interroger Jean-Marc Nollet sur le fait que pendant un mois il doit la fermer. Alors donc d'abord ça nous confortait dans l'idée qu'il y a des choses à faire, voilà. Mais voilà, le monde il est comme ça. Enfin, je veux dire, le sexisme, c'est pas seulement des choses qui sont évidentes. C'est plus pernicieux que ça. C'est plus voilà. Tu disais les compliments. Moi. Je veux dire, il y a une anecdote que je raconte toujours, mais c'est humiliant. Donc c'est un monsieur, un ancien collègue sénateur socialiste, très très bien sur lui, très connu parce que ça fait très longtemps qu'il est là, comme de manière générale chez les socialistes. Et donc je sors de commission, il tient la porte, et puis j'arrive devant la porte, et littéralement, il me claque la porte au nez. Mais vraiment, je me prends la porte sur le nez. Donc je peux vous dire que je n'avais pas l'air maligne. Et puis il me dit, moi, je ne sais pas si je peux encore te tenir la porte. Voilà. Et donc il y a comme ça une confusion systématique, ou alors quand. Alors je siégeais en commission de la justice, et c'est vrai que j'interviens régulièrement, voilà. Et puis pour les rares fois où ça n'arrivait pas, il est arrivé à mon président de commission de m'interpeller. Alors d'abord, parfois c'était Madame Droit de l'Homiste, vous n'avez rien à dire, mais sinon c'était, alors ma beauté, on ne vous entend pas. Et la difficulté, c'est que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. On te dit, mais je te dis bonjour, tu réponds pas, et t'es pas souriante. Il y a comme ça une injonction à un certain type de comportement. Et donc ici, en l'occurrence, je devais le prendre comme un compliment, alors que c'est une humiliation vraiment profonde de se dire, on débat de sujets importants et on nous réduit à une chose. Alors non, enfin voilà, dans ce contexte-là, moi je ne considère pas que c'est un compliment. Alors quand on le dit dans le milieu politique, enfin les choses sont pas les choses sont très très pernicieuses. Je vois en face, ici en face de moi, Hélène Recmans, qui est une figure féministe chez Écolo, qui est connue et reconnue. Et je pense à une expérience. Donc il y avait un texte au Parlement qui visait à dénoncer ou même à sanctionner, je ne sais plus, les violences dans les transports publics. Et donc c'était un texte qui est signé par trois femmes parlementaires et un homme. Et alors, le premier papier sur lequel je tombe par rapport à ce texte, c'est l'interview du. Donc, c'était Olivier Marois, en l'occurrence. Une interview de M. Marois, qui était co-signataire, mais qui a été sollicité et qui a accepté, qui n'a pas travaillé au texte. Et qui s'épanche sur une page entière sur le fait d'être le seul homme à être signataire d'un texte. Donc, il n'y a pas un moment où il évoque la question de la violence, et il n'y a pas un moment où il évoque les initiatrices du texte. Et donc, je dois dire que j'étais assez sciée. Donc, je poste sur les réseaux sociaux en disant « Mais ce gars a vraiment rien compris à ce qui se joue. » Et donc, lui reproduit mon poste en disant « Voilà ce que c'est le féminisme. Les hommes, fermez votre gueule. » Alors que
tu desserres ta cause.
Oui. Alors qu'il avait une page pour faire avancer la cause, le cas échéant, il n'a pas dit un mot. Il n'a parlé que de lui et du fait que, eh bien, il était le seul homme avec trois femmes dont, par ailleurs, il n'a jamais donné le nom. Et donc, ce sont des choses. J'ai été à l'initiative d'une résolution au Parlement de la Fédération sur le plafond de verre et l'égalité dans les nominations, etc. Mais je vous renvoie au débat parlementaire. C'était d'une violence sans nom sur le fait de dire on va instaurer, ou même avant que le master n'ait été mis en place. Franchement, il faut aller relire les débats parlementaires. Moi-même, alors que voilà, je suis consciente, etc., j'ai halluciné de ce que certains hommes osaient dire, et notamment sur le fait de « elles n'ont qu'à faire leurs preuves ». Voilà, je dis « écoute ». Et alors, je disais à mes collègues « mais regardez, vous êtes trois, dans les trois, il y a un con, et pourtant il est là quand même, et je ne vous dirai pas c'est lequel ». Voilà, enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que les femmes... Et donc, en politique, je l'ai dit ce matin, et je m'arrêterai là, moi, je ne... suis pas de celles. Enfin, moi, ça m'énerve d'entendre. Alors, il y a des femmes qui le disent, mais voilà, je vais focuser sur les hommes. Mais ça m'énerve d'entendre des hommes qui disent oui, il faut absolument plus de femmes parce qu'elles ont une autre vision du monde, une autre manière de faire de la politique, etc.
Ça est très essentialiste, et, hein, ça, Nathalie.
Et ça, c'est voilà, ça c'est insupportable. Je veux dire, la raison pour laquelle il faut des femmes dans nos parlements, c'est parce que les femmes sont plus de la moitié de l'humanité, punta de laine. Qu'elles soient aussi violentes, aussi vulgaires ou aussi nulles qu'un homme, elle a le droit d'être au Parlement.
Parler des débats du dimanche, c'est vrai que c'était pas toujours facile. Je m'excuse pas, hein, je m'en fous, mais je suis plus. D'inviter des femmes, les hommes disaient souvent oui, sauf le jour du doudou. Mais oui, le jour de la Saint-Nicolas, oui, le jour de la rentrée des classes, tout ce que vous voulez. Mais sauf le jour du doudou, on n'avait personne. Les femmes souvent disaient non. Et bon, déjà, c'est fort gênant de devoir dire s'il te plaît, on n'a pas assez de gonzesses. Mais elles disaient toujours, je suis pas spécialiste dans mon domaine. Je pense que d'autres personnes s'y connaissent mieux sur la question. Il y a toute une partie du sexisme qu'on a totalement intégré. Est-ce qu'on peut, comment dire, peut se désintégrer? Enfin non, pas vraiment.
Bah, c'est un vrai travail, effectivement. Il y a Brigitte Grézy qui avait fait un rapport sur les débats, enfin sur le, donc c'est en France en l'occurrence, mais sur la présence des femmes sur les plateaux de télévision, et qui disait que à l'époque c'était 80% des experts étaient des hommes et que la plupart des femmes qui intervenaient en tant que témoins. Donc vraiment, il y avait toujours voilà cet homme-là qui
était des hommes. Ou victimes.
Oui, c'est ça. Donc qui était voilà les femmes parlaient à la première personne pour raconter ce qu'elles avaient expérimenté ou ce dont elles avaient témoin, là où les hommes avaient une perspective qui surplombait les événements dont ils parlaient. Et ce qu'elle avait remarqué, c'est qu'effectivement, et moi c'est vrai que des fois il m'arrive de programmer des émissions, c'est beaucoup plus difficile de programmer les femmes pour plein de choses. Je pense qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du conditionnement où effectivement les femmes soit elles vont dire qu'elles sont pas spécialistes, qu'elles sont pas compétentes, soit elles vont demander l'autorisation de leur supérieur, soit pour des raisons de répartition des tâches domestiques, elles sont moins disponibles. Alors que les hommes, ils sont toujours disponibles, ils sont toujours compétents. Et effectivement, c'est difficile parce que quel que soit le sujet, des hommes, mais ils peuvent parler de n'importe quoi.
Je dirais ça, not all men, mais en
mais
fait,
je pense qu'on voit souvent des... Vous voyez souvent des hommes qui disent n'importe quoi à la télé avec une assurance incroyable. C'est-à-dire que sur des sujets dont ils n'ont pas la moindre idée, ils occupent l'espace avec en mansplaining total et ils racontent n'importe quoi, mais en fait, voilà, ils sont là, ils prennent l'espace. Et c'est vrai que nous sommes conditionnés, d'une certaine manière, à avoir une exigence de nous-mêmes extrêmement importante. Et du coup, on réduit notre champ d'intervention, on le réduit beaucoup. Et moi, je vois, par exemple, je fais des débats d'actualité. Généralement, quand on est quatre, par exemple, je suis la seule femme. Souvent, la plupart du temps, je suis la seule femme. Et puis après, dans le débat, dans les interventions, il y a des logiques d'intimidation. C'est-à-dire que moi, on me crie dessus, on m'interrompt. Des fois, le seul défi que j'ai autour d'une table, c'est de finir une phrase. C'est-à-dire que c'est même pas de développer mon propos, c'est de me dire, est-ce que je vais réussir avant la fin de cette heure et demie à commencer une phrase et à la terminer? Et on a pu voir, par exemple, que dans le débat... le deuxième ou le troisième débat entre Hillary Clinton et Donald Trump, il l'a interrompu 54 fois. C'est incroyable. Et ça, c'est vrai que quand on subit ça de manière récurrente, ça donne pas envie d'y retourner. Et on comprend que les femmes se disent, bon, ok, j'ai pas forcément envie d'expérimenter ça. Donc il y a plein de logiques, effectivement, de la manière dont on se perçoit et dont on se positionne socialement, mais aussi... les logiques de solidarité des hommes qui s'appellent entre eux et qui, quand ils ont l'espace, en fait, ils essaient vraiment de nous faire comprendre que c'est leur espace et qu'on n'a pas forcément intérêt à l'occuper.
Ouais, tout à fait. Il y a une dernière chose aussi que je voudrais rajouter, c'est que certaines femmes, du coup, se disent, moi, c'est pas simplement qu'elles se sentent pas à leur place, c'est qu'elles ne veulent pas de cette place. Elles se disent, non, merci, en fait. Pourquoi j'irais passer mon dimanche à me faire... recaquer le caquet par des gros types stupides, bon, j'ai autre chose à faire de ma vie. Et il y a des femmes qui se disent non, je n'y vais pas pour ça. Et donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est pas simplement... il y a du conditionnement, il y a cette idée que c'est entre guillemets leur faute, hein, c'est ce qu'on dit, c'est la faute des femmes, c'est de pas vouloir. Peut-être qu'elles simplement, elles n'ont pas envie. Alors en même temps,
comment faire pour les sortir du fait qu'elles n'ont pas envie. Donc ça, c'est toute la question aussi des femmes en politique, mais pas que. Des femmes qui occupent un espace qui est traditionnellement réservé aux hommes. C'est comment rendre cet espace désirable. Moi, je comprends. Moi, par exemple, je ne me suis pas insultée parce que j'y suis pas, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de me faire insulter. Je trouve que voilà, c'est normal. Bon, après, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je souhaite construire un autre monde, quoi, un autre monde aussi. Et je me dis, mon point de vue féministe, c'est de se dire, je vais contaminer à partir de là où je suis, et pas simplement me dire, ce monde-là, peut-être, il est trop pourri, on n'arrivera peut-être plus à rien avec ce monde-là. Bon, alors, c'est une position peut-être un peu défaitiste, hein, mais. Enfin, défaitiste, je sais pas, mais peut-être pas forcément très combative, mais.
Je voudrais un peu rebondir sur ce que tu dis, parce qu'on est confronté à une difficulté. Donc, vous le savez, on est en pleine période électorale, donc constitution des listes. Il nous a apparu comme une évidence d'imposer la parité de nos têtes de liste, etc. Et en fait, je me rends compte, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire parfois certaines femmes ne veulent pas y aller, etc. Donc, je me rends compte de la difficulté à assurer cet objectif-là. Mais pour l'atteindre, parfois, je me surprends, moi, à faire un forcing fou sur une femme qui, en fait, n'a pas envie d'y aller. Mmh. Et donc, on se met à reproduire nous-mêmes, une domination. Et donc, c'est assez piégeant. Et la quadrature du... Enfin, voilà, ce que tu disais me faisait penser à ça, en disant, mais tiens, est-ce que, en nous donnant cette obligation-là, ce n'est pas de nouveau faire porter la charge de la responsabilité sur certaines qui, sciemment, font le choix de ne pas y aller. Mais donc, voilà, c'est un cercle vicieux. De se dire ça, et donc de ne pas insister en respectant le choix, fait que sans doute on n'y arrivera pas. Et c'est vrai qu'en amont, il y a un combat à gagner, parce qu'il y a plein de raisons. Certaines ne veulent pas y aller, ne veulent pas se faire insulter, etc. Mais il y a aussi des raisons de disponibilité.
Oui, voilà.
Et tant que culturellement, on n'a pas changé la place de la femme dans la famille, dans le couple, dans la responsabilité qu'elle peut prendre, c'est compliqué pour une femme d'y aller. Donc, c'est assez particulier, parce que, c'est un peu bateau de le dire, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc, à partir de cette bonne intention-là, moi, je me surprends vraiment à faire pression sur certaines pour qu'elles y aillent, sans respecter leur volonté ou leur choix, quelles que soient les raisons qu'il y a derrière.
Simon, tu commences avec dominatrice, tu finis avec dominatrice. C'est parfait, tu as toi-même fait la boucle. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que l'une de vous trois voudrait aborder avant qu'on passe aux questions du public ? La bonne nouvelle, c'est que les femmes n'ont pas toujours envie d'y aller, mais vous en avez trois ce soir pour répondre à vos questions. Donc si vous en avez, c'est le moment. Le plus dur, c'est le premier, après ça ira.
Le rôle des hommes dans le combat féministe ?
Je ne te vois pas. Où es-tu ? Bonjour.
Ah oui. Rôle des hommes dans le combat féministe.
Oui, Alexis Gireux. Rôle des hommes dans le combat féministe.
C'est de questionner vos privilèges et de les remettre en question. Et je pense que vraiment, ce qui est important, c'est vraiment ça n'engage que moi, mais vous avez la capacité, vous avez accès aux autres hommes d'une manière différente de la nôtre. Et je pense que vraiment, il y a un rôle que vous pouvez avoir qu'on ne peut pas avoir. C'est-à-dire que vous pouvez atteindre d'autres hommes, les convaincre, leur parler d'une manière qui ne nous est pas accessible. Et je crois vraiment que ça, c'est important de se dire que... voilà, vous pouvez, quand vous avez autour de vous quelqu'un qui vous raconte des choses qui sont problématiques, qui parle des femmes d'une manière problématique, eh ben vous pouvez, au lieu de nous le raconter, parler directement à la personne en question, parce que nous, ça nous énerve, en fait, et on peut rien faire. Alors que vous pouvez dire à vos potes d'arrêter. Donc je pense que ça, c'est vraiment utiliser, en fait, le pouvoir qu'on a quand on est dominant pour essayer de faire évoluer les choses, c'est vraiment important. Et après, évidemment, à nos côtés, vous êtes alliés, donc vous pouvez être la caisse de résonance de nos combats, mais ça, je crois vraiment que cet espace qui vous est propre, il est vraiment, c'est un espace qui est central dans la possibilité de faire évoluer les choses.
Je voulais juste dire juste une chose, en plus, je veux dire en anglais... C'est, en plus de se dire quels sont mes privilèges, c'est d'en faire le deuil. Je ne sais plus me permettre. En fait, c'est d'en faire le deuil.
On va y aller mollo. Hein.
Non, vraiment. Faites le deuil de vos privilèges, quoi. Voilà. Laissez-les, faites le deuil et construisez. Voilà. Réfléchissez aussi à votre identité de genre, parce que vous en avez une, vous n'êtes plus... C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire que les hommes ont toujours été vus comme le neutre, en fait. Mais en fait, vous n'êtes pas neutre. Vous avez aussi un sexe. vous êtes aussi, enfin, vous avez aussi une espèce de, pas forcément de domination, mais en tout cas une assignation. Et réfléchir là-dessus, faire le deuil d'une série de privilèges qui sont liés à cette position, c'est ça, à mon avis, c'est ça qui va rendre le combat féministe, va lui donner peut-être une autre coloration, quoi. Voilà, c'est juste ça que je voulais ajouter.
Moi, j'ai été vraiment très interpellé par la réflexion au sujet de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai que ce serait vraiment sociologiquement intéressant de se poser la question de savoir qui s'auto-légitime et pourquoi est-ce que souvent les hommes, notamment dans le milieu politique, effectivement sont considérés comme plus légitimes. On parlait de violence tout à l'heure. Toujours pour prendre l'exemple français, j'ai vraiment été frappé par l'extrême violence dont ont été victimes deux ministres femmes et par ailleurs d'ailleurs d'origine de la diversité, à savoir Christiane Taubira et Najat Vallaud-Belkacem sous le mandat Hollande, alors que je pense que des personnes comme Manuel Valls sous Jean-Luc Mélenchon sont beaucoup plus violents, beaucoup plus agressifs, beaucoup plus... Et ça m'a vraiment choqué, tout comme, même si certains y verront, trouveront peut-être ça anecdotique, je ne supporte pas qu'on parle de Najat ou de Ségolène sans donner leur nom de famille, alors que jamais on ne parlera de Nicolas ou de Manuel. Et je trouve ça très révélateur. Mais je voulais poser alors une question sur les ressorts psychologiques qui, selon vous, poussent certaines femmes à se conduire comme ça. Parce que, par exemple, pour prendre aussi une anecdote dans le réel, j'entendais Rokhaya Diallo qui parlait de la manière dont elle se fait régulièrement interrompre, mais je pense que dans l'émission que j'écoute où elle est très souvent là, c'est essentiellement une femme qui joue ce rôle-là. Je m'interrogeais, est-ce que finalement tout ça n'est pas une question effectivement de dominant et de dominé, quand on voit notamment, ça parlera peut-être à plus de monde ici, cette séquence d'une extrême violence de Christine Angot par rapport à Sandrine Rousseau, qui témoignait surtout d'un ego pyramidal, de se dire « moi, je suis assez forte pour résister, donc tout qui n'est pas capable de résister autant que moi est méprisable
». Moi, je pense que la personne à laquelle vous êtes faites allusion, la femme à laquelle vous faites allusion, c'est Elisabeth Lévy. celles et ceux qui la connaissent, une femme qui a du caractère. Mais je pense que ça montre juste que les femmes qui arrivent en fait à ces endroits-là sont des femmes qui ont réussi à se départir des inhibitions qui sont liées à la manière dont on est élevé. C'est qu'il y a pas beaucoup de femmes qui sont là, mais les rares qui sont là généralement sont des femmes qui ont beaucoup moins de mal à interrompre quiconque. Donc pour moi, ça veut dire ça. Et après, dans la séquence entre Christine Angot et Sandrine Rousseau, j'ai le souvenir que Yann Moix avait été dur aussi. Hein. Et c'est vrai qu'on a retenu ce qui était plus sexy, qui étaient les deux femmes lutte contre l'autre, les deux femmes victimes de violences sexuelles. Mais si vous regardez la séquence en entier, que vous vous souvenez de ce qu'a dit Yann Moix à Sandrine Rousseau, c'était dégueulasse aussi. Et je trouve qu'il a été quand même assez épargné. On n'a pas beaucoup posé la question de ce qu'il avait dit, comment il se positionnait en tant qu'homme. Et encore une fois, moi, je suis pas très fan de Christine Angot, mais un peu, voilà, peu à peu, au fil de la saison, on a vraiment dépeint l'image de la folle, un peu allumée, qui dit n'importe quoi. Alors que bon, avant elle, il y avait quand même eu Éric Zemmour, qui est pas non plus quelqu'un de, voilà, particulièrement serein. Donc, donc voilà, on voit bien que, encore une fois, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'une attitude identique, une idéologie identique va toujours être interprétée de manière, va être associée à de la biologie quand il s'agira de femmes, là où chez les hommes on va avoir adopté une lecture neutre, parce qu'effectivement on considère que l'homme est le neutre à partir duquel on définit tout, enfin on définit les autres genres. Et ça, c'est problématique. Mais c'est vrai que voilà, parler d'Elisabeth Lévy, c'est l'une des seules femmes que je connais qui est très présente dans les débats, qui interrompt beaucoup. Mais c'est vrai quand même, les hommes, j'avais fait un petit montage vidéo sur ce qu'on appelle le man-interrupting, donc qui est le fait pour les hommes d'interrompre les femmes. Franchement, quand j'ai revu le montage notamment de mes interventions, c'est spectaculaire. Mais c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui m'expliquent même ce qu'est le sexisme. Et là, qui me disent non, mais ça, c'est pas sexiste. Je me dis, mais vous en savez rien, en fait. Enfin, c'est quoi votre légitimité pour m'expliquer, à moi qui vis dans la peau d'une femme depuis ma naissance, ce qui est sexiste et ce qui ne l'est pas? Et ça, c'est vraiment une forme de... Bah, quand on se vit comme étant légitime dans l'espace public, on se permet vraiment de croire qu'on a plus d'expertise que les gens qui sont compétents sur le sujet pour s'exprimer.
Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Plein, mille.
Je travaille dans une ONG féministe qui s'appelle Le Monde selon les femmes. Mon nom est Claudine Drion. J'ai une manière de présenter les vagues qui se suivent un tout petit peu différente, mais c'est une petite provocation. C'est de parler de couleurs. On pourrait dire qu'il y a eu la vague bleue avec les droits politiques, l'accès aux élections, l'accès aux droits politiques et civils. Et puis, il y a eu une vague rouge avec les droits économiques et sociaux et les droits sexuels et reproductifs. Alors, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que serait la vague verte du féminisme ? Merci.
Ouais, moi, je dis deux, trois choses un peu... J'essaye de dire des choses vaguement intelligentes, mais...
Tu es légitime.
Tu peux le dire. Oui. Tout ça. Donc, une vague verte, moi, je dirais que ce serait quand même plutôt... mais là, je vais parler vraiment de mon expérience, qui est une expérience de chercheuse, lectrice, écrite, enfin, voilà, où je lis et j'écris la plupart du temps et j'enseigne la plupart de mes journées. Mais en tout cas, ce qui me semble être une vague verte à ce niveau-là, c'est quand même la prise, je veux dire justement, cet écoféminisme qui devient aussi une éthique, hein, avec cette idée que si on doit vraiment être dans une éthique féministe, donc tant une éthique qu'on appelait une éthique du soin, mais pas forcément une éthique du soin qui serait de nouveau reconfiner les femmes, dans leur nature soi-disant serviable et douce, mais plutôt une éthique du soin où on prendrait soin de soi, des autres et de la nature, de l'environnement, en tout cas du monde dans lequel nous sommes. Donc j'ai l'impression en tout cas qu'au niveau théorique, il y a, je ne sais pas si on peut parler d'une vague verte, mais en tout cas il y a tout un mouvement qui se dit, voilà, sortir de la dédomination, démilitariser la pensée, décoloniser la pensée, c'est aussi prendre soin du monde et de l'environnement. Je dirais environnement d'un point de vue aussi assez large. En tout cas, c'est se dire, voilà, comment je prends soin de ce qui compose le monde. Hein, et donc ça, donc une série d'auteurs vont qualifier ce geste comme un geste féministe. Et donc moi, je suis assez d'accord avec ça. Donc ça pourrait être peut-être... mais bon, c'est extrêmement théorique, et je m'en sors évidemment avec une pirouette un peu rhétorique, mais donc je ne sais pas ce que pourrait être une vague verte au niveau politique. Qu'est-ce que tu en penses ?
Mais je ne sais pas, d'abord, moi, je m'interroge sur la notion de vague. Je ne sais pas intervenir oui. au tout début du débat, mais ça veut dire quoi, une vague ? Est-ce qu'elle est exclusive ? Alors, auquel cas, moi, je ne m'inscris pas dans cette lecture-là. Alors oui, une vague bleue, une vague rouge. Moi, comme féministe écologiste, je revendique autant mon appartenance à ce mouvement qui a milité sur la question des droits des femmes, des droits reproductifs, le droit de disposer de son corps, mais le droit aussi de pouvoir y travailler, de voter, etc. Et donc j'ai du mal à répondre parce que je n'arrive pas à identifier... Enfin, je n'arrive pas, parce que c'est pas clair, enfin, je veux dire, il y a aussi toute une discussion sur la question même des vagues, ça veut dire quoi ? Tu le disais, à un moment donné, les vagues, voilà, et puis alors, après, les vagues, elles reviennent, quoi, vite. Et il faut se les prendre aussi.
Ouais, et les donc, vagues, c'est le ressac aussi.
Hein, c'est le ressac, oui, c'est ça. Et donc, voilà, moi, j'ai du mal avec la notion de vague, parce que je vois pas très bien ce qu'il y a, surtout si, en plus, c'est exclusif. Et puis, par rapport à ce que tu as dit... je me sens pas à l'aise avec l'idée... D'abord, du soin, parce que ça renvoie de nouveau à quelque chose, enfin, tu vois, prendre soin de la terre. Alors, les soins, c'est les femmes qui prennent soin. Et donc, voilà. Et donc, voilà, ça appelle plein de notions, c'est interpellant. Et là-dessus, j'ai plus de questions que de réponses.
Oui. Moi aussi, j'ai toujours plus de questions que de réponses. Je préfère le dire. Oui.
Je vais ajouter une question. Tout d'abord, merci pour les débats très intéressants de ce soir. Et moi, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'utilité des quotas.
Alors moi, je pense que c'est un mal nécessaire, qu'on a vu que tant qu'on n'a pas imposé des quotas ou la tirette, on peut toujours attendre. Enfin, en politique, comme dans les conseils d'administration privés, où je pense à un dernier exemple, quand je siège en commission de la justice, on a imposé, même pas la parité, mais un tiers de femmes dans les juridictions les plus hautes. Et si on ne le fait pas comme ça, il n'y en a pas. Alors tout le monde peut dire, mais oui, on est pour l'égalité, et elle viendra quand elle viendra, mais si on n'impose pas de quotas, elles ne viendront pas. Et la présence des femmes en politique, elle est aussi liée à des quotas, et puis maintenant à la tirette. Et donc, oui, c'est un passage obligé, parce qu'après le passage obligé, il y a une normalisation, parce que le fait de ne pas avoir, enfin je fais le parallèle avec la diversité, les femmes ou la diversité, tant qu'elles ne sont pas présentes dans les parlements, ils font peur. Et donc, plus on a peur, moins on en voudra. Et donc, oui, on force la porte avec un quota, de telle sorte que l'étrangeté, qu'elle soit de genre ou de... Hein, ne soit plus étrange. Mais il faudra déjà qu'on ait quelques générations de quotas avant que ça arrive.
Merci beaucoup, c'était génial. Je suis amoureuse de vous, toutes. j'avais une question très pratique. J'ai bien aimé le sujet sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment, soit il y a un truc qui m'échappe ou pas, pourquoi vous prenez le temps de leur répondre ? Il y a peut-être une stratégie ou un truc comme ça, mais les gens qui vous insultent, qui vous agressent, pourquoi vous leur accordez le luxe de votre intérêt ?
En fait, c'est une très bonne question. C'est, moi, quand je parle sur les réseaux sociaux, quand je parle dans l'espace public, je ne parle pas à la personne à laquelle je réponds, mais je parle aux gens qui regardent ce que je dis, ce que je réponds, etc., etc. Donc, généralement, je réponds et je les expose, mais j'expose aussi ce que je pense. Et moi, je n'essaye pas de convaincre de manière, dans une interaction individuelle des personnes. Quand je suis dans un débat, par exemple, avec des gens qui sont vraiment radicalement opposés à mes idées, je sais que je parle à un nombre de personnes qui est bien plus important que les 3-4 individus qui sont face à moi. Et les réseaux sociaux, pour moi, c'est vraiment une plateforme d'expression qui me permet de mener des débats et d'exposer des idées, et puis après de permettre la participation d'autres gens. Et c'est ce que je trouve très riche. Mais les personnes, individuellement, franchement, elles ne m'intéressent pas du tout.
Une autre question. Oui.
Bonsoir. Le truc, c'est que je voulais vraiment intervenir parce que d'abord pour Madame Diallo, je vous suis depuis un moment sur Twitter et je suis, enfin c'est pas vraiment de ma faute, mais je suis un peu désolé des insultes sexistes que vous recevez et j'estime, je ne sais pas si c'est féministe ou pas, mais que c'est pas digne d'un homme ou d'un humain d'attaquer quelqu'un d'autre comme ça, de l'insulter et que voilà, si virtuellement vous êtes attaqué, sachez que vous êtes réellement aimé ou, comment dire, soutenu, ou alors y en a qui sont juste indifférents, mais en tout cas, des personnes qui... par les autres. Quoi.
Vous dire encore une fois, je vous en prie.
Merci beaucoup, merci.
La question que je vais poser, et encore une fois, je ne sais pas encore si c'est féministe ou pas, je ne suis pas vraiment... Enfin, vite fait, mais...
Fonce, c'est pas grave.
Vous comptez déconstruire beaucoup de choses qui ont été acquises par les hommes à travers l'histoire. Qu'est-ce que vous comptez garder ? Quel est votre projet ? Quel sera l'homme que vous voulez pour plus tard ou la femme que vous voulez plus tard ? Quelle sera la différence, à part le chromosome qui change ? Qu'est-ce que sera la galanterie plus tard ? Voilà, c'est des choses que je... Puis après, c'est... Je sais pas, moi... Voilà. Merci.
Déjà, merci beaucoup pour vos témoignages. On me posait la question des réseaux sociaux et tout. Ce qui est cool, c'est qu'il y a la vraie vie, en fait, et des vrais gens. Et c'est vrai que ça fait quand même relativiser toutes les injures qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux. Mais si je peux dire un truc, si vous regardez les conversations sur Twitter et que je suis en interaction avec des fachos, vous pouvez liker mes propos juste pour me signifier votre présence et pour montrer que je suis soutenue. C'est bien aussi, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et alors, par rapport à... Je ne sais pas si c'est... de cette manière-là qu'il faut formuler la question. Je pense qu'on déconstruit pas la position, enfin l'individualité des hommes et des femmes, mais vraiment un système. Et c'est vraiment la question de qui en bénéficie, qui n'en bénéficie pas. Je crois que la question de la galanterie, c'est juste la question de la politesse. Quoi. Si quelqu'un prend une passe derrière moi, je lui tiens la porte et je regarde pas si c'est un homme ou une femme pour savoir si la personne mérite que je sois polie ou non. Donc je pense qu'il y a vraiment des principes qui sont juste des principes de l'ordre du respect d'autrui qui ne doivent pas être spécifiés par un genre, qui ne doivent pas être orientés par l'idée que certaines personnes méritent plus d'attention que d'autres. Alors effectivement, je pense que ça implique une déconstruction de la manière dont on se conçoit, de la manière dont on a l'impression que des choses sont acquises. Je crois que c'est plus ça en fait, c'est plus réfléchir à déjà sortir des carcans qui sont imposés, dont tout le monde peut souffrir, hein. Effectivement, il y a des hommes qui vivent très mal, qui vivent une pression, en fait, parce qu'ils doivent performer en permanence le rôle qu'ils ont en tant qu'hommes. Et puis, c'est ça, je ne sais pas comment répondre de manière plus précise, mais je crois que c'est vraiment plus déconstruire un système et des rôles sociaux qui nous assignent et qui nous forcent, en fait, à nous comporter d'une certaine manière pour remplir notre rôle de femme, d'homme, sachant que il y a aussi, et puis c'est déconstruire les genres de manière générale, c'est-à-dire qu'on raisonne là de manière binaire, mais des genres, il y en a d'autres, il y a des gens qui se définissent pas forcément comme étant des hommes ou comme étant des femmes, ce sont des choses qu'il faut accepter, et puis le fait qu'on lit pas forcément le genre avec le sexe qu'on nous a assigné à la naissance, ce sont des réflexions qui pour moi sont les réflexions qui vont nous permettre de dépasser ces clivages-là, c'est que chacun s'autorise en fait à se définir et à s'associer à ce qui lui correspond le mieux, sans forcément sentir le besoin de répondre à des injonctions qui lui font jouer un rôle qui n'est pas forcément un rôle qui l'épanouit.
Je voudrais profiter d'une formulation que vous avez eue pour dire quelque chose sans que ce... Voilà, ce n'est pas du tout une attaque de ce que vous avez dit, mais je veux dire, la question, elle n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer Rokhaya. La question n'est pas là. La question, elle, d'abord, elle est éminemment politique, plus que de l'ordre relationnel, et elle est du droit de quelqu'un de pouvoir, à un moment donné, prendre des positions qui vont à l'encontre de l'air du temps, par exemple. Et lui dire, on peut ne pas l'aimer et lui reconnaître ce droit-là. Quand il y a eu toute cette polémique autour de la présence de Rokhaya chez nous, alors on a eu droit à tout, hein, les écologistes, fondamentalistes, voilà. Ben non, on peut faire venir et débattre avec quelqu'un avec lequel on a des désaccords. Et aujourd'hui, le problème des réseaux sociaux, c'est que cette nuance-là, elle a totalement disparu. Et la question des réseaux sociaux, elle se résume à, en effet, je like ou je like pas. Sans aucune nuance. Et donc, je voudrais en profiter, parce que je ne l'ai pas fait au début, pour te dire, Rokhaya, que quels que soient nos désaccords, s'il y en a, tu seras toujours la bienvenue chez les écologistes pour venir en débattre.
Merci beaucoup.
Monsieur avec une chemise bleue.
Mais les valeurs masculines de conquête, de compétition, de concurrence ont permis la conquête du monde. Mais maintenant, le monde, c'est plus vraiment le but de le conquérir, mais peut-être de le préserver, de l'entretenir. Est-ce que les valeurs féminines, qui sont plus théoriquement l'écoute, la compréhension, prendre soin d'eux, si les femmes vont gravir les échelons du pouvoir économique ou politique, est-ce qu'elles vont maintenir ces valeurs ou bien est-ce qu'elles vont acquérir les vieux réflexes de domination, de conquête, de prédation, etc.
C'est bien là, vous avez fait pleurer le bébé avec vos histoires. Même lui, il a capté que c'était un peu...
moi, plus que de conquête, je parlerais plutôt d'asservissement. C'est-à-dire que conquête, c'est une manière d'habiller le fait que des hommes aient asservi le reste de la Terre. Et pour moi, c'est aussi quelle formulation on adopte pour présenter des choses qui sont inacceptables. Et donc, évidemment, quand on parle de rétablir l'égalité, c'est abolir le fait qu'on puisse légitimer du fait de son genre ou du fait d'une position de domination la négation des droits des autres. Et ça, évidemment, enfin, moi, je crois que, de toute façon, tout ce qui est valeur qu'on considère comme... je pense qu'on est d'accord là-dessus, féminine ou masculine, ce sont des choses qui sont construites. Et tout ce qui est de l'ordre de la conquête du pouvoir masculin, c'est l'oppression, en fait. C'est de l'oppression. Et ça, l'oppression, c'est inacceptable. Et je pense que le rôle, justement, de ce mouvement, c'est de déconstruire ça, et de permettre aux gens de vivre en harmonie sans forcément passer par l'idée qu'il faut nier les droits des autres, qu'il faut opprimer les autres et qu'il faut les violenter. Et c'est pour ça que moi, quand on parle de conquête ou de découverte, non, c'est juste, il y a des gens qui sont morts, en fait. Des gens qui se sont fait tuer, des gens qui ont été spoliés à travers des siècles sous prétexte de position masculine, de position occidentale, etc. Donc déjà, relire cette histoire-là avec une grille de lecture humaniste, ça permet déjà de comprendre qu'il y a un problème dans la manière dont les choses se sont produites, à mon avis.
Oui. Et je rajouterais d'ailleurs que du coup, ce qui se met en opposition de la conquête, etc., la domination, la découverte, c'est la douceur, le soin, etc., c'est forcément quelque chose qui répond, hein, qui est censé répondre aux valeurs masculines, c'est les valeurs féminines. Or, il ne faudrait pas se dire qu'on devrait du coup épouser les valeurs féminines. Les valeurs féminines sont aussi ce qui a été construit systémiquement avec les valeurs masculines. Et donc, ce n'est pas de ça dont il est question. Forcément, c'est comme tu disais tout à l'heure, pas forcément des femmes en politique parce qu'elles sont plus douces. C'est pas de ça dont il est question, finalement. C'est vraiment la déconstruction du système lui-même qui importe, à mon avis, dans les enjeux féministes. C'est, évidemment, il faut sortir des asservissements, mais qui disait asservissement disait aussi cette espèce de réponse... du soumis, quoi. Donc cette idée que voilà, il fallait être un bon soumis. Donc ça aussi, il faut en sortir, à mon avis.
Puis les femmes douces en politique, je pense qu'il suffit de penser à Margaret Thatcher et Marine Le Pen pour se rendre compte que c'est un mythe. Hein. C'est... Quand elles sont en politique, elles sont pareilles que tout le monde, quoi. La douceur, c'est pas un truc, voilà.
Et c'est normal. Hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, non, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on présente et l'une et l'autre, et je n'ai de sympathie ni pour l'une ni pour l'autre, comme étant vraiment, je veux dire, pour une Marine Le Pen et une Thatcher. Il y a combien de Sarkozy et ils sont plus nombreux, hein. Et c'est pas plus normal. Hein.
Bonsoir, je m'appelle Max et je suis un homme trans. Et donc, globalement, dans la majorité des débats, mon identité n'existe juste pas. Et donc, merci d'en avoir parlé aussi ce soir, parce que c'est aussi dans le combat féministe où les personnes trans ont leur place, et également, comme vous l'avez cité, les femmes trans subissent aussi également beaucoup plus, peut-être dans certains cas, de discrimination au sein des mouvements féministes. Mais personnellement, parfois je ne sais plus où je peux être, étant donné que j'étais assignée fille à la naissance, que je suis féministe, et qu'il y a certaines féministes qui changent de trottoir quand elles me voient. Parce que, en fonction de ce que j'apparais là maintenant, eh bien, je suis allée vers l'ennemi. Donc il y avait cette question, cette vision qu'il y a deux camps, il y a deux camps opposés, et que si moi, en termes de point de confort, en termes d'équilibre individuel et personnel, j'ai décidé de faire une transition vers ce que nous appelons maintenant, actuellement, d'une manière occidentale, vers une masculinité. Qu'est-ce que c'est la masculinité déjà ? Et qu'est-ce que c'est la mienne aussi ? Eh bien, oui, où est-ce qu'on va ? Enfin, voilà. Et c'est aussi important, au sein même des colos, de ne pas focaliser dans un seul débat ou dans un seul atelier. On va parler des trans, et puis, pour tout le reste, ben, on n'existe pas. Je pense que c'est vraiment récurrent et, bêtement, l'écriture inclusive, ça fait couler pas mal d'encre et ça crispe certains, mais effectivement, enfin, c'est qui domine qui dans l'écriture. Déjà ça, on n'existe pas et à partir du moment où on n'est pas nommé, on n'existe pas.
Je vais juste rebondir sur c'est quelque chose que je voulais dire ce soir et ça me donne l'occasion, merci, de parler justement de l'importance du langage. Et j'ai l'impression que il y a eu cette vague MeToo où comme tu disais, maintenant on ne peut plus ne pas nous c'est fini, on doit entendre en fait. Mais aussi on doit entendre les effets du langage. Le langage performe des réalités et c'est très très important d'employer les bons mots. Donc toi tu parlais de féminicide en disant voilà, quand on tue des femmes dans le cadre de violences conjugales, c'est pas un drame familial, c'est pas voilà, et c'est pas non plus du terror, enfin voilà, c'est un féminicide et il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Alors dans le cadre d'écriture inclusive aussi, le langage, le masculin l'emporte sur le féminin. Bon, qu'est-ce que voilà, ça dit effectivement, ça marque au creux même de la manière dont nous allons agencer finalement nos savoirs, nos relations qui sont médiées par l'écriture, la domination. Donc merci beaucoup d'avoir relevé ce point très important. Et donc les mots sont extrêmement importants. C'est quoi un trans ? Mais je laisse Max répondre peut-être. Je pense que c'est sans doute la meilleure personne pour répondre.
Une personne trans, c'est une personne qui a été assignée à un genre qui n'est pas son point de confort, étant donné que, par exemple, quand je suis née, on ne m'a pas demandé mon avis. Personne, en fait. Ici, dans la salle, on lui a demandé son avis. On a automatiquement cru que si on est femelle, on est d'office une fille, et qu'on est d'office, si on est mâle, on est d'office un garçon. C'est faux. Donc déjà, scientifiquement, c'est faux. Mais en plus, dans ma situation, eh bien, je suis très probablement femelle, mais ça ne veut pas dire que je suis une fille. Et donc ça, en gros, c'est un exemple un peu raccourci. Mais si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de genrepluriel.be et vous avez toutes les dates pour les ateliers trans pour les nuls. Voilà, merci.
Oui, je voudrais vous dire que j'ai eu la chance de connaître mes grands-mères, mes arrière-grands-mères, et que quand je compare comment elles vivaient et ma situation actuelle, c'est quand même nettement mieux maintenant. Et donc, je me dis que c'est à nous, maintenant, mères, grand-mères, à élever correctement nos enfants, petits-enfants, pour que, et c'est dans l'éducation que, c'est là que je veux dire, c'est vraiment l'éducation qui est importante, pour que dans 2-3 générations, ce type de débat ne soit plus nécessaire, que ce soit d'office acquis, que vous naissiez fille, garçon, ou même il y en a qui naissent qu'on ne sait pas savoir, pour que, voilà, on est tous différents, mais qu'on puisse faire une société où on est chacun des gens ensemble, mais qui mène un monde où tout le monde a sa place. Ça, c'est écolo.
Oui, bonjour. Moi, je voulais justement aussi parler de l'écriture inclusive, et parce que je trouve que c'est important que les femmes soient, enfin, arrivent dans nos représentations lorsqu'on lit une histoire. Et je suis, j'étais très étonnée quand j'ai vu le slogan d'Écolo où l'écriture inclusive n'était pas utilisée. Et donc j'aimerais savoir pourquoi on n'a pas utilisé l'écriture inclusive dans notre slogan.
Il n'y a pas de raison. Voilà, on aurait dû le faire. Et voilà, donc je n'ai pas trouvé d'excuse. Il n'y a pas de raison, on aurait dû le faire.
Question, réponse. C'était parfait. On va prendre encore une question, peut-être.
Déjà, je voulais vous remercier pour cette vision du féminisme si globale, parce que souvent, le féminisme est vu comme un féminisme par les femmes, pour les femmes blanches, hétérosexuelles, cisgenrées. Bon, cisgenrées, pour ceux qui ne savent pas, c'est le contraire de trans. Voilà. Donc, c'est une personne qui a gardé le sexe qu'on lui a assigné à la naissance. Et donc, déjà, merci donc, pour cette vision beaucoup plus globale du féminisme, parce qu'on en a besoin, parce qu'un féminisme si étroit ne sert à rien, en fait. Et aussi, j'avais une question quant à l'enseignement, parce que c'est bien de parler de tout ça, et peut-être qu'il y a certaines personnes, certains parents qui vont éduquer leurs enfants dans ces idées-là, mais ce n'est pas vraiment la norme. Et donc l'idéal, ce serait que dans l'enseignement, on commence à parler de femmes, de personnes issues de la communauté LGBT, de personnes d'autres origines aussi, que les personnes africaines ne soient pas juste, on ne parle pas juste d'elles, quand on parle de la colonisation et tout ça, que l'histoire de l'Afrique soit expliquée aussi avant la colonisation. Et c'est aussi pour savoir s'il y aurait moyen d'arriver un jour à ce type d'histoire ou aussi dans des cours de français et tout. Dans n'importe quel cours, il y a moyen de faire beaucoup plus de diversité. Voilà.
Je voudrais nous dire qu'on est sans doute ici dans un cénacle de gens qui partageons beaucoup de choses sur les questions de l'égalité, etc. Enfin, et en tout cas, s'il y en a qui ne le font pas, ils ne se sont pas... Ils se sont bien gardés de le montrer.
Tu verras quand tu iras sur Twitter, je pense que tu les verras.
D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, la question du genre à l'école, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas acquis et on a encore du boulot. Quand on voit, alors je prends l'exemple de la France, les attaques dont Najat Bello-Belkacem a fait l'objet quand elle était à l'éducation nationale, parce qu'elle a fait la promotion des questions du genre dans les écoles. Je veux dire, ça reste. D'abord, c'est une question politique, et puis c'est pas encore gagné. Alors sur la question, et je m'arrêterai là, mais rapidement sur puisque le sujet était dans l'actualité ici en Belgique sur la question coloniale. Alors c'est sûr que, et là c'est mon quart d'heure promotion comme présidente de parti, c'est de dire que oui, nous sommes un parti qui mettons en avant cette exigence d'apprendre dans nos écoles l'histoire coloniale, et je profite de ce propos pour saluer tout le combat qui est mené par Calvin qui est ici et qui, après de longues années de combat, a permis d'entrouvrir des portes, mais il y a encore beaucoup de boulot.
Juste pour ajouter quelque chose, c'est vrai que l'éducation, c'est important, ce qui est enseigné, la manière dont les cursus scolaires sont dessinés est importante, mais les enfants sont exposés à d'autres représentations, qui sont les représentations publiques, donc les représentations médiatiques, mais aussi le cinéma, donc qui fait les films. Le fait qu'il y ait très peu de femmes réalisatrices, c'est un vrai problème. Puis la rue. le fait que, par exemple, la rue est occupée par les hommes. La plupart des... Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais j'imagine que c'est pareil qu'en France. Toutes les infrastructures sportives qui sont conçues dans la rue sont quasiment utilisées uniquement par des hommes. Donc, quel accès on a à la rue? Quand on est une femme, généralement, on ne reste pas debout très longtemps dans la rue parce qu'on sait que bah, le temps qu'on reste debout, il y a des hommes qui vont nous parler, qui vont nous déranger. On ne circule pas à certaines heures, on ne prend pas les transports. Donc, cette question-là de l'appréhension de l'espace public, de l'espace extérieur en sécurité, c'est une vraie question. C'est comment, en fait, nos corps peuvent être en sécurité où qu'ils soient et comment, nous, on peut pouvoir faire du sport partout sans être forcément... regarder, importuner, etc. Et pourquoi? Parce que là, les infrastructures sportives, c'est vraiment les pouvoirs publics. Donc, comment ils peuvent penser? Ils peuvent réfléchir à une conception qui favorise autant les hommes que les femmes et qu'il n'y ait pas uniquement des terrains de basket où il n'y a que des hommes. Comment on peut faire en sorte que les femmes puissent aussi appréhender ces espaces-là? Donc, c'est vraiment une multiplicité d'espaces où les enfants peuvent évoluer en comprenant la complexité de cette question-là des genres.
Merci. Alors, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je vais t'emprunter une phrase pour la conclusion. Elle est toute personnelle, évidemment, même si c'est ta phrase. Un féminisme si étroit ne sert à rien. Merci à tous d'être venus.
Vous étiez le 24 août 2018 à Liège, à la Cité Miroir. Ici se clôture le débat sur féminisme, une nouvelle vague de nouveaux combats, avec Rokhaya Diallo, écrivaine, réalisatrice, journaliste et militante féministe française, Nathalie Grandjean, chercheuse à l'Université de Namur, doctorante en philosophie et administratrice de SOFIA, le réseau belge des études de genre, et Zakia Katabi, coprésidente d'Écolo. Le débat a été animé par la journaliste Florence Hénaud. Retrouvez ce podcast sur le site etopia.be.